Il est 7h43 à Paris. RFI Matin, à la une du prochain journal, dans 17 minutes. Les États-Unis, encore après la tentative présumée d'assassinat de Donald Trump, le candidat républicain dénonce le ton et les mots employés par les démocrates dans la campagne présidentielle. Il accuse Biden et Harris d'être en fait à l'origine de la tentative d'assassinat qu'il a visée. Précision avec David Thompson dès le début du prochain journal à 8h. Et puis dans les prochaines minutes, Maïdougouri, une semaine après la rupture du barrage, les inondations ont fait au moins 40 morts et près de 400 000 déplacés. Le sous-secrétaire général de l'ONU, Mohamed Malik Fall, s'est rendu sur place. Il nous raconte dans quelques minutes. Et tout de suite, les sports en direct. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Arnaud.
En football, nouveau look pour une nouvelle vie. Début de la nouvelle Ligue des Champions ce mardi.
Avec la première journée de phase de poule d'une Ligue des Champions qui compte désormais 36 clubs répartis dans 4 chapeaux de 9 équipes et qui s'affronteront dans une première phase sous forme de mini-championnat. À suivre notamment pour cette toute première journée, Milan AC, Liverpool, Juventus Turin, PSV Eindhoven ou encore Real Madrid Stuttgart. Une belle affiche pour le club allemand et peut-être même une première prestigieuse dans la compétition pour l'attaquant malien El Bilal Touré qui a rejoint le club cet été, Cédric De Oliveira.
Santiago Bernabéu, Kylian Mbappé, le club le plus titré de l'histoire de la Ligue des Champions. Difficile de rêver mieux pour El Bilal Touré, lui qui est né à Adjamé en Côte d'Ivoire de parents maliens. Mais en s'engageant avec Stuttgart, il a voulu franchir une nouvelle étape dans une carrière déjà riche. À bientôt 23 ans, le jeune malien découvre son 4e championnat après avoir porté le maillot de Reims en Ligue 1, Almeria en Espagne et de l'Atalanta Bergame en Italie. Une dernière saison contrastée pour Touré. Blessé aux ischio-jambiers, il n'a disputé que 17 rencontres avec le club lombard. Mais il a marqué en demi-finale de la Ligue Europa contre Marseille avant de disputer quelques minutes de la finale victorieuse face au Bayer Leverkusen. Avec déjà un trophée européen à son palmarès, il a donc été prêté à Stuttgart cet été avec une option d'achat obligatoire l'an prochain. Vainqueur de la CAN des moins de 20 ans avec les Aiglons en 2019, Touré espère être épargné par les blessures. Pour l'instant, il est cantonné à un rôle de remplaçant, mais il compte bien s'imposer en Bundesliga et pourquoi pas remplacer le Guinéen Serhou Guirassy dans le cœur des supporters du club allemand.
Cédric De Oliveira, premier match de cette nouvelle formule de la Ligue des Champions à 16h45, temps universel. Juventus Turin, PSV Eindhoven et Young Boys de Berne, Aston Villa.
En Afrique, le CHAN 2025 a désormais un calendrier précis.
Moins de 6 mois avant le début de la compétition, la CAF a officialisé les dates du prochain championnat d'Afrique des Nations. Il se tiendra du 1er au 28 février au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, répétition générale de la CAN 2027 que les trois pays co-organiseront. C'est d'ailleurs à Nairobi, en marge d'une réunion de son comité exécutif, que la Confédération africaine de football a annoncé les dates du CHAN, qui, s'il reste réservé aux joueurs évoluant sur le continent africain, est désormais ouvert aux joueurs évoluant hors de leur championnat national.
Le cyclisme, pour finir, est encore un succès camerounais sur le Tour de Côte d'Ivoire.
Comme lors de la première étape, cette fois c'est Clovis Kamzonga Bosolo qui a franchi en premier la ligne d'arrivée, vainqueur de cette étape de 100 km à Grand Laou, à Bosolo, qui au passage récupère le maillot jaune.
C'est un travail d'équipe et je pense que les pluies, on est sur une belle lancée. Je pense que déjà le maillot jaune va changer d'épaule et je pense que ça va rester tout camerounais. On est dans le coup, on va essayer de gérer les étapes qui nous restent pour pouvoir rentrer au Cameroun avec le maillot jaune. Mon équipe a pris les choses en main dès le début et il fallait pas laisser une échappée prendre du champ. À un moment, il fallait que nous autres on passe à l'offensive pour pouvoir un peu fatiguer les adversaires. Et j'ai attendu le bon moment à 30 km de l'arrivée. J'ai pu tenter un coup vraiment décisif et ça aboutit. Je pense que je peux que remercier mes équipiers qui ont fait d'abord un boulot exceptionnel pour que je puisse aller dans cette aventure. Le Burkina, c'est un adversaire vraiment coriace avec les Maliens. Je pense que c'est un peloton vraiment costaud. On ne doit pas négliger parce que vraiment c'est un peloton vraiment très costaud.
Et troisième étape ce mardi, 90 km entre Conefla et Saint-Fra.
Merci Antoine Grenier, à tout à l'heure. Près de 40 morts et 400 000 personnes déplacées, c'est le dernier bilan en date à Maïdougouri, dans le nord du Nigeria. Il y a une semaine, le barrage d'Alo cédait à la suite de pluies diluviennes. Et cette catastrophe s'ajoute à la crise humanitaire, alimentaire, sécuritaire qui frappe tout le nord du Nigeria. Les autorités locales travaillent avec l'appui des Nations Unies. Notre invité Afrique ce mardi, c'est Mohamed Malik Fall. Il est sous-secrétaire général de l'ONU, coordonnateur résident au Nigeria, en charge notamment de la réponse humanitaire. Il était à Maïdougouri samedi et il répond à Guillaume Thibault.
Bonjour Mohamed Malik Fall.
Bonjour.
une semaine après la rupture du barrage d'Alo. Est-ce que la situation humanitaire est aujourd'hui stabilisée?
On ne peut pas encore parler de stabilisation. J'étais à Maïdougouri avant-hier et j'ai pu voir que non seulement le nombre de personnes affectées est en train d'augmenter, on parle de 400 000, mais le nombre de personnes déplacées aussi est en train d'augmenter. On a dépassé les 100 000 déplacés. Les conditions sont horribles, une forte congestion, quelquefois des conditions d'assainissement et d'hygiène qui sont extrêmement limitées, le manque de nourriture, des enfants qui sont malades. N'oublions pas que tout ça se passe sur un terrain qui était déjà très fragile. L'État de Borno est l'épicentre de la crise de Boko Haram depuis 2009. C'est dans ce contexte-là que cette inondation vient à la limite nous faire reculer par rapport au travail qui était en train d'être entrepris pour résoudre la question des déplacés sur la durée.
Vous venez de le dire, vous étiez à Maïdougouri samedi. Concrètement, à quoi ressemble la capitale de l'État de Borno?
J'ai vu une ville effectivement coupée en deux, une partie de la ville occupée par l'eau. Il y a des parties de la ville qui sont toujours pas accessibles. Il y a même des populations auxquelles on ne peut pas avoir accès pour les faire sortir de leur résidence où elles se trouvent en ce moment. Les efforts continuent de ce point de vue-là, mais on n'a pas une certitude que toutes les personnes ont pu être évacuées des lieux qui sont affectés par l'inondation.
6 jours après, il y a encore de l'eau dans la ville.
Il y a encore beaucoup d'eau dans la ville et je crois que cette eau-là va rester encore longtemps.
Cette catastrophe survient aussi en pleine crise alimentaire, notamment en pleine période de soudure.
Non seulement c'est une période de soudure, mais c'est aussi dans un contexte où, à cause des réformes économiques entreprises par la nouvelle administration, on a observé et on observe depuis plusieurs mois une inflation galopante, surtout une inflation sur les denrées alimentaires. On parle même de 40% d'inflation sur une année, en plus du fait maintenant qu'on est dans la période de soudure. La grosse crainte, moi, que j'ai et que j'observe, c'est aussi quel impact cette inondation va avoir sur les récoltes, parce que si les gens sont empêchés de se livrer à des travaux champêtres, si l'eau compromet la récolte, on risque de se retrouver donc avec une saison encore plus difficile que prévu. Alors que tous nos espoirs, c'était qu'il y ait une bonne saison et une bonne récolte pour avoir plus de disponibilité de produits alimentaires sur le marché.
Vous lancez déjà un appel à la vigilance et justement à anticiper les mois à venir.
Je dois avouer qu'en ce moment, les inondations affectent énormément d'États dans le nord. Est et nord-ouest du Nigeria, dont la principale activité est l'agriculture. Donc c'est une alerte aussi, non seulement pour se mobiliser et sauver la vie des populations qui sont directement affectées, faire une course contre la montre pour éviter les épidémies, je pense surtout au choléra, parce qu'on sait très bien aussi que l'accès à l'eau potable, les limites d'accès à l'eau potable peuvent conduire à ces épidémies-là. Mais au-delà des besoins immédiats et au-delà des interventions immédiates pour sauver des vies, pour réduire la vulnérabilité des personnes affectées, la question qu'il faut garder en perspective, c'est dans les semaines, dans les mois à venir, si les récoltes sont compromises, qu'est-ce que cela va avoir comme conséquence sur la détérioration de l'accès à l'alimentation, de l'accès à des produits dont les gens ont besoin pour leur survie quotidienne.
On entend une réelle inquiétude.
Je suis très inquiet, effectivement, parce que c'est une crise qui vient se superposer à d'autres crises. Et donc, dans ces conditions-là, avoir une détérioration comme on est en train de le voir peuvent avoir des conséquences beaucoup plus graves qu'on ne le perçoit aujourd'hui.
Derna en Libye, il y a un an, Arbat au Soudan fin août, le barrage de Maïdougouri la semaine passée, les catastrophes sur les barrages se multiplient. Comment prévenir ces accidents majeurs?
Tout ne se résume pas au changement climatique. Je crois que aussi la préparation des États à ce genre de catastrophe est quelque chose qu'il faut renforcer, notamment la surveillance et la maintenance de ces infrastructures comme les barrages, les ponts. Nous, les Nations Unies, en tout cas les leçons qu'on tire, c'est qu'il va falloir renforcer, accélérer sur ce plan-là. Éduquer les populations, s'assurer que les populations ne s'installent pas dans des zones qui sont très propices à ce genre de catastrophe et aussi mettre en place des systèmes d'alerte précoce qui permettent d'évacuer les populations et de les alerter avant que les catastrophes n'atteignent un certain niveau.
Merci Mohamed Malik Fall.
Mohamed Malik Fall, sous-secrétaire général de l'ONU, coordonnateur résident au Nigeria. Il répondait à Guillaume Thibault. L'actualité des matières premières avec Marie Pirolfan et on parle aujourd'hui d'hélium. C'est le gaz dont on remplit les ballons des enfants, mais on le retrouve surtout dans les technologies de pointe pour la transition écologique, pour la transformation numérique et dans l'exploration spatiale. Un projet pilote de production d'hélium en Europe de l'Ouest a été lancé la semaine dernière.
C'est peut-être le début de la fin d'une dépendance totale de l'Europe de l'Ouest aux importations d'hélium. Car jusqu'à aujourd'hui, tout le gaz consommé y est importé. Un gaz qui vient essentiellement du Qatar, de l'Algérie et des États-Unis, ce qui sous-entend une logistique complexe. L'hélium est très volatile et doit être liquéfié à 269 degrés pour être transporté, puis reliquéfié pour être utilisé. Produire localement permet de transporter l'hélium à l'état gazeux, ce qui réduit aussi considérablement son coût. L'usine pilote inaugurée la semaine dernière en France, au sud de Paris, n'est qu'un premier pas. Elle doit permettre de valider la faisabilité technologique et économique d'une production sur le long terme. Mais le gisement exploité par la start-up française 458 Énergie pourrait fournir d'ici 2028 15% des besoins de la France. La nouvelle offre française, bientôt doublée d'une production en Allemagne également, permettra de répondre aux besoins croissants du secteur. L'hélium n'a en effet pas de substitut satisfaisant et reste incontournable dans l'univers des technologies de pointe, que ce soit dans l'imagerie médicale, l'aérospatiale ou les semi-conducteurs. Ce dernier secteur est en pleine expansion et absorbe aujourd'hui un quart de l'hélium consommé. Au total, d'ici 2035, la demande en hélium, quelle que soit son utilisation, pourrait quasiment doubler. Le problème reste que l'hyperconcentration de l'offre mondiale fait peser un risque de rupture d'approvisionnement et que ce risque est encore plus problématique au vu de la demande qui se profile. C'est une des raisons d'ailleurs qui a poussé l'UE à exiger que 10% de l'hélium consommé en Europe soit produit par les États membres d'ici la fin de la décennie.
Marie Pirolfan sur RFI.
RFI Matin.
Grand reportage aujourd'hui dans les pas des soldats africains du débarquement de Provence. Il y a 80 ans, plus de 250 000 combattants débarquaient dans le sud-est de la France, deux mois et demi après le débarquement en Normandie. Dans les rangs de cette armée, plus de la moitié des soldats venaient des anciennes colonies françaises en Afrique. Le 15 août 1944, ces hommes, venus de loin, foulent donc les terres provençales, puis libèrent les uns après les autres les villages, avant d'atteindre leur objectif, le port de Toulon. Grand reportage de Théa Olivier et Valentin Hugues.
Dans le village du Reveste-les-Eaux, à quelques kilomètres au nord de Toulon, Félid Raja habite dans une maison fleurie à flanc de montagne avec vue sur mer. Sur la table de son salon, ce fils de tirailleur algérien sort un épais classeur avec de vieilles photos en noir et blanc de son père.
Alors sous mes yeux, là vous avez sa médaille militaire à mon père, à monsieur Raja Abdelkader, qui faisait partie du 3e RTA, qui s'est engagé à 18 ans à Mostaganem en Algérie.
C'est deux ans plus tard, depuis Oran, qu'Abdelkader Raja est envoyé en Italie pour libérer Monte Cassino avant de participer au débarquement de Provence.
Toute la côte, et ils sont venus par milliers, donc voilà, ils sont montés jusqu'à Marseille, et de Marseille, après, hop, direction Lyon, et ensuite jusqu'à la frontière d'Alsace en haut. Et c'est là que mon père, il a été blessé.
Il a été blessé où ?
Il a été blessé à l'épaule. Et je crois qu'il avait eu éclat d'obus et balles.
Son père a été soigné à Lyon, puis rapatrié en Algérie. Toujours mobilisé par l'armée, il revient avec sa femme travailler à Toulon en 1948, puis il construit sa maison au Reveste-les-Eaux, où est né Félid Raja.
Quand il était torse nu l'été, j'ai demandé, on parlait, il disait la guerre, je dis papa, quand je serai grand, je serai militaire. Il me disait non mon fils, c'est pas beau là, la guerre.
L'homme de 61 ans se rappelle des discussions de son père au bar ou dans le salon avec les autres anciens combattants, des récits qui commencent à se perdre.
Il y a le monument, on en parle, on met le drapeau... C'est tout, mais on parle plutôt des Américains et des troupes d'Afrique, point barre, ça s'arrête là. Mais j'ai l'impression qu'ils ont peur de parler des troupes algériennes, marocaines, tunisiennes, les Sénégalais.
Et quel est l'impact du fait qu'on n'en parle pas suffisamment ?
Ça me fait de la peine quand même. J'avais fait une exposition justement pour montrer et pour mettre en valeur ces tirailleurs. Parce que j'en avais marre qu'on parlait des troupes américaines, et c'est les troupes d'Afrique qui sont venues, c'était eux qui étaient en première ligne.
Commando d'Afrique, yeah, commando d'Afrique,
dans les pas des soldats africains du débarquement de Provence. C'est le grand reportage du jour. Théa Olivier, Valentin Hugues, rendez-vous à 21h40, heure de Paris. Pour l'heure, c'est le matin, il est 7h58, la suite avec Nathalie Amar. Bonjour Nathalie.
Bonjour Arnaud, et oui je vous le confirme, c'est RFI Matin, jusqu'à 10h. Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez, les États-Unis sont à la une. Donald Trump de retour en campagne, dans le Michigan, après la nouvelle tentative d'assassinat qu'il a visée. Il accuse sa rivale démocrate, en tout cas la rhétorique dont elle use, d'être responsable de cette tentative. Kamala Harris, elle est attendue en Pennsylvanie, l'un des États les plus disputés de la présidentielle. On s'y arrêtera dans le journal de 9h. On est à 7 semaines du vote. À 8h20, notre invité Anouar Abou Aïché, ancien ministre de la Culture de l'Autorité palestinienne, alors que l'ONU débat aujourd'hui en session extraordinaire à New York d'une résolution exigeant la fin de l'occupation des territoires palestiniens dans les 12 mois. Il nous dira s'il en attend quelque chose. Et puis on parlera de l'or des pharaons, ou plutôt de l'Égypte, en pleine poussée de nationalisme économique après la vente de la plus importante mine d'or du pays à une société sud-africaine. A tout de suite, c'est le journal dans une minute.
Les 21 et 22 septembre, le ministère de la Culture vous invite à célébrer la 41e édition des Journées européennes du patrimoine. Découvrez des monuments et sites exceptionnellement ouverts et participez aux animations proposées partout en Europe sur les thèmes du patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions et du patrimoine maritime. Plus d'informations sur journeedupatrimoine.fr. En partenariat avec France Média Monde.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Un an après sa création par les militaires au pouvoir au Mali, Niger et Burkina Faso, l'alliance des États du Sahel vous semble-t-elle crédible? Coopération sécuritaire, projet commun de développement économique et social, quel bilan dressez-vous? Appelez-nous.
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À tout à l'heure sur RFI.